Ivanhoé.
Chapitre 3. Alors, triste consolation, de cette côte aride et froide qui entend mugir la mer du Nord, vint le Saxon robuste, au teint vermeil, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Thomson, La Liberté. Au milieu d'une salle peu élevée, mais qui était démesurément longue et large, on remarquait une grande table en chêne, formée de planches grossièrement travaillées, ayant à peine reçu quelques polis, et provenant d'arbres abattus dans la forêt. Sur cette table, le repas du roi était servi pour Cédric le Saxon. Le toit de la salle, composé de poutres et de solives recouvertes de planches et de chaume, mettait à peine à l'abri des injures de l'air. Et à chacune de ses extrémités étaient deux vastes cheminées, si grossièrement construites qu'il s'échappait au moins autant de fumée dans la chambre que par les tuyaux. Cette vapeur continuelle avait donné une sorte de vernis aux poutres et aux solives, en les incrustant d'une couche épaisse et noire de suie. Le long des murs étaient suspendus des instruments de guerre et de chasse. À chaque angle se trouvaient de grandes portes servant de communication avec d'autres pièces. Tout, dans ce vaste édifice, participait de la grossière simplicité de l'ère saxonne, simplicité dont Cédric était fier. Le plancher était un mélange de terre et de chaux, bien battu, tel que celui qu'on emploie encore dans les granges de nos fermes actuelles. Dans le quart de la longueur de la salle, il était un peu plus élevé que le reste, et cet espace, qu'on appelait le « dais », était réservé pour les principaux membres de la famille et les hôtes de distinction. À cet effet, une table couverte d'un drap d'écarlate des plus fins était placée transversalement sur cette estrade ou plateforme. Et du milieu de cette table en partait une plus longue et plus basse, où les inférieurs et les domestiques venaient s'asseoir pour prendre leur repas. Ces deux tables ainsi réunies avaient à peu près la forme d'un T, et ressemblaient beaucoup à celles que l'on voit de nos jours dans les anciens collèges d'Oxford et de Cambridge. Des chaises et des fauteuils massifs de chêne, sculptés, étaient placés autour du dais, et sur ces sièges, de même que sur la table la plus haute, s'étendait un poêle de drap qui, jusqu'à un certain point, servait à mettre les dignitaires qui occupaient cette place privilégiée à l'abri de la pluie qui, en plusieurs endroits, se frayait un passage à travers le toit mal construit. Les murailles de cette partie de la salle, aussi loin que le dais s'étendait, étaient ornées de tapisseries, et le plancher était recouvert d'un tapis chargé d'essais de broderies dont le brillant coloris faisait presque le seul mérite. Au-dessus de la partie inférieure de la table, le toit, comme nous l'avons remarqué, n'existait pour ainsi dire plus. Tout autour, les murs étaient recouverts d'un enduit grossier, la terre était nue, et de lourds bancs de chêne tenaient lieu de siège. Au centre de la table d'honneur, on voyait deux fauteuils plus élevés que les autres et destinés au maître et à la maîtresse de la maison, qui présidaient toujours au banquet hospitalier. Usage qui leur avait fait donner un titre qui, en saxon, signifie « distributeur du pain ». À chacun de ces fauteuils était joint un marchepied curieusement sculpté et enrichi de marqueterie en ivoire, qui les distinguait de tous les autres sièges. Un de ces fauteuils était occupé alors par Cédric le Saxon, qui attendait son souper avec la même impatience qu'un alderman de cette époque ou de la nôtre, quoique son rang ne fût que celui de Tan ou de Franklin, comme l'appelaient les Normands. L'ensemble de sa physionomie montrait tout d'abord en lui un homme franc, mais vif et colère. Sa taille n'était pas au-dessus de la moyenne. Mais il se distinguait par de larges épaules, de longs bras et des membres vigoureux, propres à endurer les fatigues de la guerre ou de la chasse. Au-dessous de son large front brillaient deux grands yeux bleus. Il avait une physionomie ouverte, de belles dents. En un mot, toute sa personne respirait cette sorte de bonne humeur qui accompagne souvent un caractère vif et brusque. L'orgueil et la méfiance se lisaient dans ses yeux, car sa vie avait été employée à défendre des droits sans cesse envahis. Et son caractère, vif, fier et résolu, avait été constamment tenu en haleine par les circonstances qui l'environnaient. Sa blonde et longue chevelure, partagée sur le milieu de sa tête, descendait des deux côtés sur ses épaules. À peine y apercevait-on quelques traces de la vieillesse, quoique Cédric approchât de sa 60e année. Son habillement consistait en une tunique verte dont le collet et les manches était garni d'une espèce de fourrure grise, d'une qualité inférieure à l'hermine, et formé, à ce qu'on croit, de la peau de l'écureuil gris. Dessous ce pourpoint qu'il tenait ouvert, on voyait un habit d'étoffe écarlate très étroit. Un haut-de-chausses de la même étoffe, qui descendait à peine jusqu'au bas des cuisses, laissait le genou à découvert. Ces sandales ne différaient point de celles des paysans quant à la forme, seulement elles étaient d'une peau plus fine, et attachées par devant avec des agrafes d'or. Les bracelets dont ses bras étaient ornés, le long collier qui pendait à son cou, étaient du même métal. Un ceinturon enrichi de pierreries supportait une courte épée à deux tranchants et à pointe acérée, suspendue presque perpendiculairement à son côté. Sur le dos de son fauteuil était placé un manteau d'étoffe écarlate, doublé de fourrure, et un bonnet de même étoffe, richement brodé, ce qui complétait l'habillement de l'opulent châtelain quand il voulait sortir. Un court épieu garni d'une tête d'acier large et brillante était aussi appuyé contre le fauteuil. Il pouvait lui servir d'arme ou simplement de canne, selon l'occasion. Plusieurs domestiques, dont le costume participait et de la richesse de celui de leur maître et de la grossière simplicité de celui de Gurthe le porcher, épiaient les regards et attendaient les ordres du dignitaire saxon. Deux ou trois autres d'entre eux, d'un degré plus élevé, se tenaient sous le dais derrière leur maître. Le reste occupait la partie inférieure de la salle, dans laquelle on voyait encore d'autres commensaux d'une espèce différente. Deux ou trois lévriers robustes et velus, semblables à ceux qu'on emploie pour chasser le cerf et le loup. Autant de dogues d'une race vigoureuse, à cou épais, à large tête, aux oreilles longues. Enfin, deux ou trois petits matins, aujourd'hui appelés terriers, qui tous attendaient avec impatience l'arrivée du souper. Doués de cette profonde sagacité particulière à leur race, tous ces animaux se gardaient bien d'interrompre le capricieux silence de leur maître. Probablement aussi étaient-ils retenus par la crainte d'un petit bâton blanc placé près de l'assiette de Cédric, et destiné à repousser les avances trop familières de ses serviteurs quadrupèdes. Un chien-loup, d'un aspect terrible, jouissait seul de la liberté réservée à un favori. Étendu près du siège de son maître, il provoquait de temps en temps son attention en plaçant sa large tête velue sur ses genoux, ou le museau sur sa main. Alors les mots « À bas, Balder, à bas, je ne suis pas en humeur de jouer » le forçaient à se retirer. Et effectivement, Cédric, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, ne se trouvait pas dans une situation d'esprit fort tranquille. Lady Rowena, qui était allée à l'office du soir dans une église un peu éloignée, venait seulement de rentrer et changeait de vêtements, ayant été mouillée par l'orage. Gurthe et ses pourceaux, qui depuis longtemps auraient dû être rentrés, n'étaient pas encore revenus de la forêt. Et à cette époque, les propriétés étaient si peu respectées qu'on pouvait croire que ce retard venait de quelque déprédation commise par les outlaws, dont fourmillaient les bois environnants, ou de la violence exercée par quelques barons voisins qui, abusant de leur force, ne respectaient pas davantage les droits d'autrui. La chose était assez importante, car une grande partie de la richesse domestique des propriétaires saxons consistait en nombreux troupeaux de porcs, surtout dans les terres boisées où ces animaux pouvaient trouver facilement leur nourriture. Outre ces motifs d'inquiétude, le tan saxon était impatient de revoir son fou favori, Vamba, dont les facéties servaient comme d'assaisonnement à son repas du soir et aux nombreuses libations qui l'accompagnaient. Ajoutez à cela que Cédric n'avait pris aucune nourriture depuis midi, et que l'heure ordinaire de son souper avait sonné depuis longtemps. Son déplaisir ne s'exprimait néanmoins que par des mots entrecoupés, partie murmurée en lui-même, partie adressée aux domestiques qui l'entouraient, spécialement à son échanson, qui lui offrait de temps à autre, en guise de potion calmante, une coupe d'argent remplie de vin. « Pourquoi, s'écria-t-il, Lady Rowena tarde-t-elle tant à revenir ?»« Elle n'a plus arrangé que sa coiffure, répondit une suivante, avec ce ton d'assurance que prend une femme de chambre de nos jours en parlant à son maître. « Voudriez-vous qu'elle vînt se mettre à table en cornette de nuit et en déshabillée ? Ma maîtresse est de toutes les femmes du comté celle qui passe le moins de temps à sa toilette. » Cet argument sans réplique fut reçu avec une sorte d'acquiescement de la part du tan saxon, qui ajouta « J'espère qu'à l'avenir... » Sa dévotion lui fera choisir un plus beau temps pour visiter l'église de Saint-Jean. Mais, au nom de mille diables, continua-t-il en se tournant vers son échanson, et en haussant la voix comme s'il eût été heureux de trouver quelqu'un sur qui il pût à son aise décharger sa bile, quel motif peut retenir Gurthe si tard dans les champs? Je crains qu'il ne nous rende un mauvais compte de son troupeau. C'est pourtant un serviteur exact et fidèle, et je le destinais à quelque chose de mieux. J'aurais pu faire de lui un de mes gardes forestiers. » Oswald Leschanson insinua humblement qu'il y avait à peine une heure d'écoulée depuis qu'on avait sonné le couvre-feu. Mais ce mot « couvre-feu » résonnait toujours mal aux oreilles d'un Saxon. « Maudit soit le couvre-feu » s'écria-t-il. « Oh diable le tyran bâtard qui nous l'a apporté ! Et l'esclave sans cœur qui fait entendre ce mot à l'oreille d'un Saxon !»« Le couvre-feu » ajouta-t-il après une pause. « Le couvre-feu qui force de braves gens à éteindre leur lumière afin que les voleurs et les brigands aient plus de facilité à travailler dans l'ombre. Le couvre-feu !» Réginald Front de Bœuf et Philippe de Malvoisin savent le mettre à profit aussi bien que Guillaume le bâtard et qu'aucun des aventuriers normands qui se trouvèrent à la bataille des Hastings. J'apprendrai, je gage, que mes pourceaux ont été enlevés par quelques bandits affamés qui n'ont d'autres ressources que le vol et le pillage, et qui auront mis à mort mon fidèle esclave après lui avoir enlevé leur proie. « Et Vamba, où est-il? Ne m'a-t-on pas dit qu'il était parti avec Gurt ?» Oswald répondit affirmativement. « De mieux en mieux. Le fou Saxon aura aussi été enlevé pour servir un baron normand. Imbéciles que nous sommes de leur être soumis. Nous méritons autant leur mépris et leur sarcasme que si nous n'étions nés qu'avec une demi-dose de sens commun. » « Mais je me vengerai, » ajouta-t-il en quittant son fauteuil avec un geste d'impatience et en saisissant sa javeline. « Je porterai ma plainte au grand conseil. J'ai des amis, des vassaux. J'appellerai le Normand en combat corps à corps. Qu'il vienne avec sa cotte de maille, son casque d'airain et tout ce qui peut donner du cœur à un lâche. Cette javeline a percé des planches plus épaisses que trois de leurs boucliers de guerre réunis. Peut-être me croit-il affaibli par l'âge. » Mais ils verront que, seul et sans enfant comme je le suis, le sang de Hervard coule encore dans les veines de Cédric. « Ah, Wilfrid, Wilfrid » ajouta-t-il d'un ton plus bas. « Si tu avais pu vaincre ton imprudente passion, ton père n'eût pas été abandonné à son âge, comme le chêne solitaire qui oppose ses rameaux isolés et sans appui à la fureur des vents déchaînés. » Cette réflexion parut changer sa colère en tristesse. Remettant sa javeline à sa place, il se rassit dans son fauteuil, baissa les yeux et parut absorbé dans des pensées mélancoliques. Soudain, le son d'un cor tira Cédric de sa rêverie. Les aboiements tumultueux de tous les chiens qui étaient dans la salle, au nombre de 20 ou 30, indépendamment de ceux qui se trouvaient dans les autres parties du château, y répondirent à l'instant. Il fallut les efforts de la baguette blanche et des domestiques pour faire cesser cette clameur canine. « Voyez vite à la porte, esclave !» s'écria le Saxon, dès que le tumulte lui permit de faire entendre sa voix. « Voyez vite ! Et sachez quelle nouvelle ce corps nous annonce. J'appréhende, je le répète, quelque brigandage exercé sur mes terres. » Au bout de 3 minutes, un des valets vint lui apprendre que le révérend Heimer, prieur de Jorvaux, et le vaillant chevalier Brian de Bois-Guibert, commandeur de l'ordre du Temple, avec une suite peu nombreuse, demandaient l'hospitalité pour une nuit, se rendant au tournoi qui devait avoir lieu le surlendemain auprès d'Ashby de la Zouche. « Le prieur Heimer, Brian de Bois-Guilbert, » murmura Cédric. « Normands tous deux. Mais qu'importe, Normand ou Saxon, l'hospitalité ne leur sera point refusée à Rotherwood. Du moment qu'ils l'ont choisi pour halte, ils sont les bienvenus, quoiqu'ils eussent mieux fait encore de poursuivre leur route. » Ce n'est pas que Cédric regretta d'avoir à les loger et à les nourrir pendant une nuit. Il pensait qu'en leur qualité d'hôte, des Normands eux-mêmes sauraient sans doute mettre un frein à leur insolence. « Va, Humbert, » dit-il à une espèce de majordome qui se tenait derrière lui, une verge blanche à la main. « Prends 6 hommes avec toi et introduis les arrivants dans la salle destinée aux étrangers. Aie soin de leurs chevaux et de leurs mules, et veille à ce que leur suite ne manque de rien. Que tous reçoivent d'autres vêtements s'ils le désirent. Que l'on fasse du feu dans leur chambre, que l'on y porte de l'eau, du vin et de l'âle. Dis à mes cuisiniers d'ajouter ce qu'ils pourront au souper et qu'on le serve dès que ces étrangers seront prêts à se mettre à table. Dis à mes hôtes que Cédric aurait été leur offrir lui-même ses compliments s'il n'avait juré de ne jamais avancer de plus de 3 pas au-delà de son dais pour aller à la rencontre de quiconque ne descend du sang royal saxon. Va exécuter mes ordres. Je ne veux pas qu'ils puissent dire dans leur orgueil qu'ils n'ont trouvé qu'avarice et pauvreté chez un saxon. Le majordome partit avec plusieurs domestiques pour remplir les ordres de son maître. « Le prieur Heimer, » répéta Cédric en se tournant vers Oswald. « C'est je crois le frère de Gilles de Molvere, maintenant lord de Middleham. » Oswald fit un signe affirmatif et respectueux. « Son frère, ajouta le Saxon, occupe la place et usurpe le patrimoine d'une meilleure race, celle d'Ufgar de Middleham. Mais quel seigneur normand n'agit pas de même ? Le prieur est, dit-on, un prêtre franc et jovial, qui préfère une coupe de vin à son bréviaire et le son du cor de chasse à celui de la cloche. Qu'il vienne, il sera bien accueilli. Et le templier, comment l'appelez-vous ?
Brian de Bois-Guilbert. »
« Bois-Guilbert, se dit Cédric, comme le fait un homme qui, sans cesse entouré de ses inférieurs, semble plus volontiers s'adresser la parole à lui-même. « Bois-Guilbert, ce nom est connu au loin sous de bons et sous de mauvais rapports. On dit que c'est le plus brave de tous ceux de son ordre, mais qu'il en a tous les vices, l'arrogance, l'orgueil, la cruauté, les mœurs dissolues. Son cœur est endurci, il ne respecte, il ne craint ni le ciel ni la terre. » C'est du moins ce que disent les guerriers qui reviennent de la Palestine. N'importe, ce n'est que pour une nuit, et il sera également le bienvenu. Oswald, mets en perse le tonneau de vin le plus vieux, prépare le meilleur hydromel, le mora le plus exquis, le cidre le plus mousseux, le pigment le plus balsamique. Mets sur la table les plus grandes coupes, car les templiers et les abbés aiment le bon vin et la bonne mesure. Elgita, allez dire à Lady Rowena qu'elle peut se dispenser d'assister au repas de ce soir, à moins qu'elle ne le désire expressément.
« Elle le désirera, n'en doutez point, répondit la suivante, avec une grande hardiesse, car elle entendra avec plaisir raconter des nouvelles récentes de la Palestine. » Cédric lui lança un regard de mécontentement, mais Rowena et tout ce qui lui appartenait avaient le privilège d'être à l'abri de sa colère. Il répondit seulement, « Silence, petite fille, et que ta langue soit discrète. » Porte mon message à ta maîtresse, et qu'elle agisse selon qu'il lui plaira. Ici, du moins, la descendante d'Alfred règne encore en souveraine. » Elgita sortit.
« La Palestine ! La Palestine ! » répéta le Saxon. « Combien d'oreilles s'ouvrent au récit que nous font ces croisés dissolus, ces hypocrites pèlerins qui reviennent d'un si fatal pays ? Et moi aussi, je pourrais demander, je pourrais m'informer. » Je pourrais écouter avec un cœur palpitant les fables que ces rusés vagabonds débitent chez nous afin d'extorquer une hospitalité indigne d'eux. Mais non, aucun lien ne m'attache plus désormais au fils qui a refusé d'obéir à ma voix. Son sort m'est aussi indifférent que celui de la plupart des misérables qui, portant sur leur poitrine le symbole de la rédemption, se précipitèrent par millions dans les excès les plus inouïs, dans les crimes les plus horribles. Et crurent, au milieu de leur atrocité, accomplir la volonté du Tout-Puissant. Il fronça le sourcil et tint ses yeux fixés à terre pendant quelques instants. Comme il les relevait, les portes du fond de la salle s'ouvrirent, et précédé du majordome muni de sa baguette et escorté de quatre domestiques portant des torches, ses nouveaux hôtes entrèrent dans l'appartement.